Bienvenue dans le F-Club, une discussion autour de sujets féministes avec un ou une invitée, présentée par Juliette Cottin.
Avec elle, nous tentons de comprendre les grands systèmes de discrimination au travers de leur vécu, leur combat ou leur recherche.
Aujourd'hui, dans le F-Club, je reçois Sarah Abitbol et Katia Pala, respectivement fondatrice et directrice de l'association La Voix de Sarah. Cette association est dédiée à l'écoute, à l'accompagnement et à l'orientation des victimes de violences sexistes et sexuelles dans le sport, ainsi qu'à la prévention de ces violences. Toutes les deux patineuses de haut niveau, elles ont eu le même entraîneur, Gilles Beyer. Cet homme était le directeur général de la division de patinage artistique du Club des Français Volants de Paris, où elle s'entraîne dans les années 80 et 90. Être sélectionnée par lui et s'entraîner dans un tel club, le plus grand de France, pour les toutes jeunes sportives passionnées et talentueuses qu'elles sont à l'époque, c'est l'assurance du meilleur entraînement possible. Mais pour les deux athlètes de haut niveau, le rêve devient cauchemar. Pendant 2 ans, chacune est victime de Gilles Beyer, qui les viole et les agresse sexuellement. Exerçant son emprise d'adulte et d'entraîneur, il leur impose le silence. Ce silence, Sarah Abitbol le fait voler en éclats en 2020 avec la sortie de son livre au titre évocateur « Un si long silence ». Le film documentaire qui porte le même nom sort en 2022. Depuis, d'autres victimes de l'entraîneur ont témoigné. Mis en examen, le pédocriminel reconnaît les faits mais décède à 66 ans avant son procès pour des faits plus récents non prescrits. Pour Sarah Abitbol et Katia Pala, ce n'est pourtant pas la fin du combat. Le témoignage de Sarah a contribué à enclencher le MeToo du sport. Car 30 ans ont passé depuis ces agressions, mais le monde du sport a encore beaucoup à faire pour protéger les victimes plutôt que les agresseurs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis le lancement de la cellule Signal Sport en 2020 par le ministère des Sports, suite aux révélations de Sarah Abitbol, 1800 signalements ont été reçus et 1284 personnes ont été mises en cause. 90% des faits dénoncés concernent des violences sexistes et sexuelles, 81% des victimes sont de sexe féminin et 77% étaient mineurs au moment des faits. Enfin, 37% de ces faits concernent des enfants de moins de 15 ans. Ces chiffres sont loin d'être à la hauteur du nombre réel de victimes puisqu'on évalue à 150 000 le nombre de victimes de violences sexistes et sexuelles dans le sport durant leur enfance. Mais ils prouvent, ces chiffres, que la parole se libère et que les signalements se multiplient, grâce notamment aux témoignages publics des victimes et aux instances institutionnelles et associatives mises en place. Cette année, la loi Abitbol est entrée en vigueur le 8 mars 2024. Elle modifie le code du sport et oblige désormais les dirigeants de clubs à signaler les comportements à risque. En cas de non-respect de cette obligation, c'est eux qui sont susceptibles de faire l'objet d'une interdiction d'exercer. C'est une vraie victoire dans le chemin vers la protection des victimes et la prévention des violences sexistes et sexuelles dans le sport. Pour les deux athlètes, le chemin passe aussi par la voie de la sensibilisation et de la formation. Avec leur association La Voix de Sarah, elles sillonnent la France pour porter, à travers leurs témoignages, la voix des victimes et faire évoluer en profondeur les pratiques. Elles font aujourd'hui un arrêt à Angers et ont répondu à mon invitation. Bonjour Sarah, bonjour Katia, merci d'être là.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, puisque tout est lié au patinage, revenons peut-être dans un premier temps sur vos premiers pas sur la glace. Sarah Abitbol, vous êtes née en 1975 et vous avez grandi à Nantes. Vous montez sur des patins toutes petites. Alors, ce sport, c'est pas un sport si courant. Qu'est-ce qui vous fait arriver sur des patins ?
Alors j'ai commencé le patinage à 5 ans effectivement, à l'école c'était patin ou piscine ou natation et j'avais pas envie de me mouiller, donc je suis allée patiner. Voilà, j'ai préféré le froid
au
mouillé, voilà. Et donc ma mère encadrait de temps en temps les classes de découverte et là en l'occurrence elle encadrait la séance de patinage avec l'école et un entraîneur est venu la voir, une monitrice exactement, et lui a dit « Ah, votre fille elle a l'air douée, elle est allée au milieu de la glace sans se tenir, est-ce qu'elle aimerait en faire un petit peu ?» Donc ma mère m'a demandé et j'ai dit « Ah ouais, c'est génial, j'adore ça, oui j'aimerais ». Et donc je me suis inscrite tout de suite pour 2 heures par semaine et j'ai adoré ça. C'était l'expression libre en fait, cette liberté sur la glace et c'est cette impression de glisse. Bon, je glissais pas encore évidemment comme on glisse quand on est un champion, mais l'effet l'effet était extraordinaire et j'ai plus jamais lâché mes patins jusqu'à encore aujourd'hui.
Et alors, comment est-ce que d'une passion comme ça de petite fille, on évolue vers un entraînement vraiment sérieux de patinage vers le haut niveau ?
Il suffit déjà d'être très organisé dans le planning, parce que à l'école à Nantes, c'était école et pas école de glace. Ça veut dire qu'on allait à l'école et que le matin on allait patiner, le midi on allait patiner, le soir on allait patiner. Donc il faut aussi un cadre de vie, et les parents sont là pour nous accompagner, manger dans la voiture, etc. Ce qui amène, si on a un peu de talent et qu'on travaille beaucoup, à gagner les premières compétitions départementales, régionales, et ensuite d'atteindre les championnats de France, ce qui est extraordinaire pour une provinciale déjà, d'aller au championnat de France. Et ensuite, malheureusement, les heures ne suffisent pas pour atteindre un niveau supérieur. Et là, mes parents, en fait, demandent au président du club, qu'en pensez-vous ? Des Sarah, il y en a une tous les 100 ans, à l'époque, hein, je parle bien de 1980. Et donc, il y a eu un entraîneur qui est venu, qui était mon futur entraîneur agresseur, et qui a dit, oui, effectivement, ça vaut le coup. Et ensuite, je suis partie à Paris. Voilà, pour faire simple.
Le résumé. Katia, est-ce que vos débuts ressemblent à ceux de Sarah ?
Oui et non. J'ai commencé plus tard, en fait. J'ai commencé très tardivement à patiner. J'ai commencé vers 9 ans, ce qui est déjà...
Extrêmement tard.
Par rapport à 5 ans.
Pour le haut niveau, c'est
ouais,
sûr.
Oui, pour le haut niveau, voilà. Et en fait, j'ai voulu patiner parce que je regardais le patinage à la télévision. Je trouvais ça merveilleux, tellement beau. Et sauf que là où j'habitais, il n'y avait pas de patinoire. Donc je faisais de la danse et j'ai tanné mes parents pour qu'ils m'emmènent à la patinoire de Sergi Pontoise à l'époque. Et j'ai commencé donc le club, comme les enfants qui commencent. Et la professeure de l'école de glace m'a repérée dès la première année de club. Donc je suis rentrée en école de glace en fait tout de suite. Et j'ai progressé très très vite. Voilà. Ensuite, je me suis entraînée à Colombes avec Philippe Candeloro. Là, j'ai commencé à gagner des compétitions nationales. Et Gilles Beyer m'a repérée, comme il a fait avec Sarah, et pour que je vienne m'entraîner donc au Centre des Français Volants à Bercy. J'ai commencé par là à m'entraîner avec lui, par un stage à La Roche-sur-Yon, et c'est là où tout a basculé.
Donc vous avez effectivement des cursus qui sont pas exactement au même moment, mais très similaires, en tout cas parallèles. Donc pour chacune d'entre vous, effectivement, à 2 ans d'intervalle, tout bascule lors de ce fameux stage à la Roche-sur-Yon. Sarah Bidbol, dans votre livre et dans le documentaire, vous racontez comment donc Gilles Beyer vous rend visite une première nuit, alors que vous dormez, durant un stage d'été de préparation au championnat du monde junior. On est en 1990, vous avez 15 ans, et c'est le début pour vous de 2 années d'enfer. Il va continuer ses viols durant l'été, mais aussi de retour à Paris. Tout de suite, dès cette première nuit, il vous contraint au silence.